R F I. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue. De nombreux projets hydrocarbures relancés par Donald Trump font polémique aux États-Unis. Le président américain, partisan des énergies fossiles, a notamment donné le feu vert à un oléoduc dont la réalisation avait été suspendue par Barack Obama. Baptisé Keystone XL, cet oléoduc doit transporter du pétrole depuis les sables bitumineux du Canada jusqu'au sud des États-Unis, en passant par l'État du Nebraska et notamment en passant par les terres de Art et Helen Thunderup, un couple de fermiers blancs qui cultivent du maïs sur 60 hectares à Nelly, dans le nord du Nebraska. Eux qui avaient milité à Standing Rock contre un autre projet d'oléoduc font aujourd'hui partie du mouvement Bold Nebraska, le Nebraska audacieux, qui rassemble d'autres fermiers, des Amérindiens et des écologistes avec une cause commune, résister coûte que coûte. Un reportage de Cerise Maréchaux.
Là, ce sera du maïs. Ça ira de ce portail ici à l'autre là-bas. Je m'appelle Helen Thunderup. Je vis à Nelly, au Nebraska. Là, nous sommes au nord de ma ferme familiale.
Moi, je suis son mari, Art Thunderup. J'étais prof. Et Helen, employée dans l'administration scolaire. La retraite venue, on s'est installé ici, sur la ferme familiale. C'était notre rêve.
Il fait bien froid, le vent est très froid là. Art a enfilé une grosse veste brune, la capuche couvre sa casquette rouge. Et Helen a un sweatshirt vert, pareil, la capuche ramenée sur sa chevelure blanche. Tous les deux sont en jean basket. Là, en face de nous, il y a une grande machine à irrigation. On marche dans un champ tout vert, couvert de pieds de maïs. Des pieds de maïs un petit peu décharnés, couchés sur le sol.
Right here is where it would come.
C'est pile ici que ça se passerait.
This farm is on the Keystone XL proposed route.
Cette ferme est sur le passage du projet d'oléoduc Keystone XL dans le Nebraska. Si on regarde une carte, on voit bien que l'oléoduc fait un angle entre le Montana, le Dakota du Sud et le Nebraska. Une fois ici, il part vers le sud à travers le reste du Nebraska.
Et cette route de l'oléoduc Keystone, elle devrait passer vraiment là sous nos pieds ?
Oui, juste ici, jusqu'à notre maison, derrière le bosquet là-bas. Il va traverser notre route de campagne, puis entrer chez les voisins. Après, il va traverser la nationale et continuer au sud.
Et alors, comment avez-vous découvert ce projet d'oléoduc qui passerait en plein votre propriété ?
J'étais dans la maison, Art était dans les champs.
Et il y a une agent foncier qui est venu nous voir. C'était en mai 2012.
Cet agent travaillait pour TransCanada.
Oui, TransCanada est une société canadienne. Ils font du transport d'hydrocarbures. Et ils veulent construire cet oléoduc.
Keystone XL.
Il partira depuis Alberta au Canada et passerait aux États-Unis à travers le Montana, le Dakota du Sud et jusqu'au sud du Nebraska. Ou d'ailleurs d'autres oléoducs prendraient le relais pour transporter ce produit plus loin. Principalement à Port Arthur au Texas, où se trouve une raffinerie spécialisée dans les sables bitumineux. Et donc, l'agent foncier nous a présenté ce projet comme la septième merveille du monde. Il n'a parlé que de pétrole classique, pas un mot sur les sables bitumineux et tous les intrants chimiques dangereux qui vont avec. Bien sûr, elle a dit qu'on gagnerait beaucoup d'argent si on signait et que ce serait absolument sans danger.
L'oléoduc le plus sûr du monde, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit aussi que ça aiderait l'économie locale, que ça créerait des emplois, des exonérations fiscales pour notre comté, que ça aiderait les États-Unis.
Que c'était bien pour l'indépendance énergétique de notre pays et plein d'autres choses merveilleuses.
Elle nous a dit aussi, il faut le faire, il faut signer. Sauf qu'après son départ, Art et moi, on en a discuté. Art, il a travaillé dans un centre de documentation. Et du coup, il m'a dit, je vais me renseigner un peu plus. Et ce qu'il a appris, c'est qu'il s'agissait bien de sable bitumineux. Ce n'était pas du pétrole classique. Ce qui implique beaucoup de produits chimiques.
Oui, les sables bitumineux sont l'un des hydrocarbures les plus sales qui existent. Il faut creuser profond et ensuite beaucoup les laver jusqu'à arriver à une substance épaisse et visqueuse. Donc ils doivent la diluer et la mélanger pour que ça circule bien dans les oléoducs. En plus, nous, on est dans l'est de la région des Sand Hills, juste au-dessus d'un aquifère. On l'appelle aquifère Ogallala. C'est le plus grand aquifère souterrain aux États-Unis. C'est très dangereux d'avoir un oléoduc ici. En plus, dans ce coin, l'eau est très proche de la surface, à seulement une douzaine de mètres. Au-dessus, c'est juste du sable. Et donc, s'il y a une fuite, tous les produits chimiques pénétreraient dans cette réserve d'eau, là, sous nos pieds.
TransCanada sees North America's whole energy picture. Keystone XL transported oil is cleaner than heavy Californian oil. Studies show Keystone XL would have little effect on climate change. The Keystone XL pipeline is a critical piece of a secure energy picture for America. Let's get it done.
They offer an easement a little over $20,000.
Ils nous ont proposé une servitude foncière pour environ $20,000. C'est de l'argent ponctuel, mais l'oléoduc, lui, sera là pour toujours. C'est une bouchée de pain, vu les risques encourus. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas assez d'argent dans le monde qui me fera accepter d'avoir cet oléoduc sur nos terres, à cause des dommages que ça fera à notre eau. Et puis le projet de TransCanada, après avoir exploité cet oléoduc, est de le laisser pourrir sous le sol. Même s'il n'y a pas de fuite, avec le temps, ça va rouiller. Et tous les produits chimiques qui restent vont se déverser dans l'eau. En plus, ça va détruire la structure même du sol. Ici, on a à peine plus de 10 cm de sol de surface, de terre arable. La plupart des nutriments sont dans cette couche supérieure. Si on la ravage, ça va devenir un terrain vague, sans vie. On est nombreux à être affectés, mais beaucoup de monde le soutient. C'est sûr que l'argent sera un gros coup de pouce pour payer des factures ou un nouveau tracteur. Les temps sont durs pour les agriculteurs. Ils pensent à l'argent et non aux conséquences. Mais dans le Nebraska, on est plus de 90 propriétaires et fermiers à avoir dit non. Un groupe citoyen s'est formé ici, Bold Nebraska, très actif dans ce combat. On a formé des grandes coalitions. L'une d'elles s'appelle les Cowboys et les Indiens, avec des fermiers, des ranchers, des Amérindiens, tous unis contre le serpent noir. Ça remonte à une prophétie. Un des chefs spirituels a eu une vision d'un serpent noir qui arriverait et qui risquerait de détruire les Premières Nations. Le côté positif de ce serpent noir, c'est qu'il a uni de nombreux groupes différents. Nous, les cow-boys et les Indiens. Et on a vu aussi comment les tribus amérindiennes se sont unies à Standing Rock, alors que certaines d'entre elles n'avaient pas eu de relation depuis les guerres indiennes. Des groupes locaux et internationaux ont uni leurs forces pour lutter contre un problème commun.
We had
Ici, on a organisé le premier campement spirituel contre les oléoducs, le campement Piste des Larmes.
En quelle année ?
En novembre 2013. Il faisait froid, neigeait.
Comme aujourd'hui ?
Oui, avec beaucoup plus de neige, au moins 15 cm de neige. Et il y avait un tipi ici, juste un. Ce n'était pas encore Standing Rock. C'était le tout premier campement. Il y avait des représentants de 8 tribus. Ça a duré 4 jours. On a entretenu un feu sacré 24 heures sur 24. Et on a passé notre temps assis, à parler, à se demander que pouvons-nous faire pour arrêter cet oléoduc ? Que pouvons-nous faire ?
Let's go in a warm place. Donc à bord du pick-up, on va se mettre au chaud. There's a battle raging on the sacred land. Our brothers and sisters had to take a stand. Against us now for what we all been doing. On the sacred land there's a battle brewing.
Vous avez entendu parler du concert Harvest the Hope qu'on a organisé ici avec Willie Nelson et Neil Young?
Oh my god! Vous avez Willie Nelson et Neil Young qui ont joué ici? Wow! Ici, sur notre ferme, pour protester contre Keystone XL.
Oh yes, yes.
Eux aussi se sont battus pour la cause.
Et ils se battent toujours.
C'était quand ce concert ?
En septembre
2014.
L'année avant que le président Barack Obama refuse le projet d'oléoduc Keystone XL.
Ouais. Ça a attiré l'attention du monde entier. On était environ 8600 personnes ici. Ouais, 8600. Ça nous a mis les larmes aux yeux.
Et donc aujourd'hui, le nouveau président Donald Trump a relancé le projet d'oléoduc Keystone XL. Et pourtant, aujourd'hui, selon différentes études, plus de la moitié des Américains maintenant sont opposés à cet oléoduc.
That's correct, because the first time around,
ouais, tout à fait. Il y a quelques années, on était à peine 30% contre l'oléoduc. Maintenant, c'est plus de la moitié. C'est vraiment une question d'éduquer les gens sur la réalité derrière cet oléoduc. Et l'impact négatif que ça va avoir sur le réchauffement climatique. Et à quel point ça nous fait régresser dans l'ère des hydrocarbures, au lieu d'avancer vers plus de renouvelables. Il faut vraiment qu'on empêche cet oléoduc, et on y est presque.
Et donc là, vous avez des... Juste derrière nous, là, oui, vous avez installé des panneaux solaires le long de votre hangar.
Oui, parce que même si on utilisait depuis quelque temps du carburant écologique pour cultiver nos champs, en fait, en discutant, on s'est rendu compte qu'on ne faisait pas assez pour l'environnement. Et l'année dernière, en 2016, ces panneaux solaires ont produit 91% des kilowatts utilisés sur notre ferme. Et ça nous donne le sourire.
Merci. On va se mettre au chaud.
Vous voulez boire quelque chose ?
Ah oui, merci, je veux bien. Un café bien chaud. Merci beaucoup. Pour vous, Hélène, c'est difficile de parler.
Sometimes it is.
Parfois, oui.
Because it strikes home.
Ça me touche.
And I sometimes I just can't.
Parfois, je n'ai pas les mots.
Yeah, it's hard.
Ouais, c'est dur. C'est vraiment dur.
But we know
Mais on sait ce qu'on doit faire et on va le faire.
If there's a spill,
s'il y a une fuite,
it's going to
ça va affecter une très grande zone,
kind of the
le grenier du Midwest.
And we've learned
et
from previous
on a appris de fuites précédentes que les sables bitumineux et les produits chimiques vont descendre au fond et on ne peut pas les récupérer. La fuite de Kalamazoo au Michigan en 2010 n'a toujours pas été nettoyée à ce jour. Elle ne le sera sans doute jamais.
Et TransCanada assure que cet oléoduc sera parmi les plus sûrs du monde. Mais pourtant, il est de notoriété publique que des fuites dans leur premier oléoduc Keystone 1 ou dans d'autres oléoducs ou gazoducs dans le pays sont très fréquentes.
On Keystone 1, a year ago now,
il y a de cela un an, sur Keystone 1, leur premier oléoduc près de Freeman dans le Dakota du Sud, c'est à 130 km d'ici, un fermier a repéré du pétrole sur le sol. Et donc TransCanada est venu et ils ont creusé. Ils ont découvert que la fuite venait d'une soudure défectueuse. Ils ont dû creuser plus de 40 mètres. Et malgré cela, on n'est même pas sûr qu'ils ont pu tout nettoyer. Des milliers et milliers de gallons de pétrole et de produits chimiques se sont répandus. TransCanada a eu de la chance, car l'eau n'a pas été contaminée localement, parce que là-bas, la nappe phréatique est vraiment très profonde. Si ça s'était produit sur notre ferme, l'aquifère ici aurait été totalement contaminé, totalement souillé. Rien que d'y penser, j'en ai les poils qui se hérissent. TransCanada, eux, ils se vantent d'être l'oléoduc le plus sûr du monde. Mais ce n'est pas eux qui ont trouvé la fuite. C'est un propriétaire qui l'a trouvé. Alors, leur système de détection est-il vraiment si sûr? C'est vraiment à se demander. Et quand on examine les autres fuites qui ont été signalées, ce n'est jamais la société qui les repère. Ce sont les gens, sur le terrain, des fermiers, des ranchers qui les trouvent et les signalent.
Aujourd'hui, quelques mois après l'élection du président Donald Trump, qui s'est empressé de donner un feu vert fédéral pour la construction de cet oléoduc Keystone XL. Aujourd'hui, c'est l'État du Nebraska qui est devenu un acteur clé dans le devenir de ce projet.
That is absolutely correct.
Oui, tout à fait.
Because both Montana,
parce que le Montana et le Dakota du Sud ont tous les deux délivré des permis de construire à TransCanada. D'ailleurs, dans le Montana et le Dakota du Sud, certains propriétaires ont été forcés de céder des terres au nom d'une loi soi-disant d'intérêt public. Mais l'État du Nebraska impose ses limites à TransCanada et beaucoup plus de fermiers ici ont refusé de signer. Et TransCanada a admis qu'ils ne construiront pas tant qu'ils n'ont pas de permis dans le Nebraska.
Donc d'ici au mois de septembre, il va y avoir plusieurs séances d'audition où vont pouvoir s'exprimer les opposants, des militants environnementaux, des propriétaires terriens, des fermiers, des tribus amérindiennes, des experts et également les partis, donc TransCanada et leurs avocats. Et donc c'est à l'issue de ces auditions que le Public Service Commission, donc la commission des services publics, va approuver ou non le tracé de Keystone XL ici au Nebraska.
Et nous pourrions avoir une décision peut-être en septembre ou en octobre.
Donc l'État du Nebraska est devenu l'ultime barrière, l'ultime bastion de résistance à cet oléoduc.
Le Nebraska a stoppé l'oléoduc une fois et il l'arrêtera une seconde fois. On a toujours résisté de façon pacifique. Mais si ce bulldozer approche de ma ferme, eh bien il me trouvera sur son chemin.
But you're too late and asking. The Keystone Pipeline's falling away.
Deux fermiers en résistance, un reportage signé Cerise Maréchaux, alors qui finance les projets d'énergie fossile comme celui-ci aux États-Unis et ailleurs. Restez avec nous, nous en parlerons dans un instant après le flash d'information.